Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens en ce 11 janvier 2018 dans la slush. Je ne sais pas si ça a été accepté par l'Office de la langue française, mais je l'ai lu en quelque part. Il y en a qui l'écrivent S-L-O-C-H-E et d'autres S-L-U-S-H, je crois. Mais toujours est-il que c'est quand même embêtant et salissant. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour.
Ben, c'est la première fois qu'on se parle.
Ben oui, de l'année.
Alors, bonne année. En duo. Et qu'on est fait pour bien s'entendre. Alors, mon cher, vous avez passé un beau temps des fêtes?
Oui.
Oui?
Enrhumé?
En
fait, j'ai été malade. Oui,
oh
voilà.
Non.
Fait que j'ai commencé le 23.
On dirait que tout le monde a été malade.
Ben, j'ai voulu faire ma part.
Oui.
Je vais faire partie du groupe, alors voilà.
Ça s'entend encore un petit peu.
C'est vrai.
C'est long, hein?
C'est très long, oui, oui.
Alors faites attention à vous et puis...
J'y compte bien.
Vous êtes quand même capable de nous animer cette chronique éphémérée?
J'ai peu de souffle, mais je vais faire mon possible.
Allez-y lentement.
Le 11 janvier, en 1569, les prix de la première loterie d'État qui finance des ports et des fortifications sont tirés à Londres, chapeautés par la reine-mère. En 1787, l'astronome William Herschel découvre les deux plus grosses lunes d'Uranus, soit Titania et Oberon. En 1823, dans une pétition, 69 000 habitants du Bas-Canada dénoncent le projet d'union des deux Canadas. En 1886, à New York, première partie du premier championnat du monde officiel d'échecs. En 1909, signature du traité sur les eaux limitrophes des États-Unis et du Canada, créant la Commission mixte internationale. En 1922, toujours un 11 juin, c'est parce qu'il fait chaud dans mon studio.
un acte manqué aussi, un lapsus.
Un lapsus,
oui,
voilà.
Qui cache votre envie de l'été, peut-être.
J'adore l'hiver.
Oui,
en fait,
je le sais.
Mais le 11 janvier, voilà.
Oui.
En 1922, un Canadien de 14 ans, Leonard Thompson, est le premier diabétique traité avec succès par l'insuline. 1940, première russe du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev. Mmh. En 1963, à Los Angeles, ouverture du Whisky à Gogo, première salle de danse appelée Discothèque. En 1972, le Pakistan reconnaît l'indépendance de son ancienne province orientale, le Bangladesh. Et dans la catégorie « Ça ne s'invente pas », ma chère Hélène, en 1983, à cour de candidats jurés à Joliette, le juge Jean-Guy Boilard, vraisemblablement excédé, en envoie attrapé sur la voie publique, rien de moins. Et en 2002, il ne fallait pas passer par là, en tout cas.
C'est légal?
Écoutez, je ne suis point...
Ben,
je
si
suis
le juge a décidé de le faire, exact. J'imagine que ça se fait.
Voilà. Et en 2002, le 11 juin... Voyons... Le 11 janvier toujours, des chercheurs de l'Université de Californie de Los Angeles, l'UCLA, annoncent avoir mis au point le premier test de dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer. Et pour ce qui est des naissances, un 11 janvier, John Alexander Macdonald, le premier ministre du Canada, il naît à Glasgow en 1815, et le 20e premier ministre du Canada, Jean Chrétien. C'était un quiz, mais je l'avais pas
annoncé. Je ne sais pas si vous avez vu les appendices, c'est la revue de l'année cette année.
Non.
Parce qu'ils disent, ben nous, on voulait faire l'année de... On voulait faire le bilan de l'année, je ne sais pas, 95, je crois.
Okay.
Puis au début, c'est Roy Dupuis en Jean Chrétien. Puis ils se demandent pourquoi il est en train d'imiter Jean Chrétien. Ça commence comme ça et c'est vraiment rigolo.
Je ne l'ai pas vu, mais je vais le voir.
Oui,
je vous
oui,
en parlerai.
Oui.
Et pour ce qui est des décès, j'en ai noté trois. En 1836, John Molson, le brasseur et entrepreneur canadien d'origine britannique, est décédé un 11 janvier. Nous avons Alberto Giacometti, le peintre et sculpteur suisse, qui est décédé en 1966. Et Anita Ekberg, l'actrice suédoise, nous a quittés en 2015, elle qui était née un 29 septembre 1931.
Oui, quand on pense à elle, on pense à la fameuse scène de la fontaine dans le film de Federico Fellini, où elle appelle Mastroianni Marcello.
Marcello!
Ouais.
Bonne journée.
Merci, Mathieu. Oh, mais ça se dit pas.
Matteo.
OK. Matteo, oui. À la une de la presse, Plante renie sa promesse. La mairesse Valérie Plante fait fi d'un engagement électoral. Les Montréalais écoperont d'une hausse de taxes de 3,3% en moyenne, une augmentation plus importante que prévue. Compte rendu, réaction et analyse. Et justement, ville liée et petits commerçants, citation, une claque en pleine face. La chronique de Stéphanie Grandmont que je vais vous lire, personne n'est dupe. Et l'éditorial d'Alexandre Sirois, salé, la facture d'eau. Budget de Montréal, la promesse à l'eau de Valérie Plante, c'est la chronique de Stéphanie Grandmont dans la presse d'aujourd'hui. Alors, ça se lit comme suit. On n'a pas entendu son grand éclat de rire rafraîchissant. On ne l'a pas vu sautiller de joie non plus. À l'occasion du dépôt de son premier budget, la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, était retombée sur terre durement. Tant bien que mal, elle s'est défendue d'avoir brisé sa promesse électorale de ne pas augmenter les taxes foncières au-delà de l'inflation. Si vous l'aviez vu patiner, si vous l'aviez entendu jouer sur les mots, tordre les chiffres, les électeurs qui s'attendaient à un nouveau style de politique seront déçus. La réalité toute crue, c'est que les résidents de Montréal verront leur compte de taxes augmenter en moyenne de 3,3 % en 2018. Pour une maison moyenne de 427 500 $, la facture s'élèvera à 3 729 $, un bond de 118 $ par rapport à l'an dernier. Cette hausse est incontestablement supérieure au taux d'inflation de 2,1 % sur lequel la ville table cette année. Un taux d'inflation arrangé avec le gars des vues, j'y reviendrai plus loin. Mais jamais, au grand jamais, la mairesse n'a voulu admettre qu'elle revenait sur sa parole. 10 fois plutôt qu'une, elle a répété que sa promesse électorale visait strictement les taxes foncières qui vont grimper de seulement 1,9 % cette année. D'accord, mais à cela, il faut ajouter les taxes imposées par les arrondissements qui augmenteront de 0,3 % en moyenne. Et surtout, il faut additionner la hausse de 1,1 % de la taxe spéciale de l'eau. Instaurée en 2004, cette taxe n'avait pas bougé depuis 4 ans. Or, les investissements dans le réseau de distribution d'eau sont appelés à tripler d'ici l'an prochain pour pallier le déficit d'entretien chronique de nos installations. Quand on attend qu'il y ait des fuites pour réagir, les travaux d'urgence coûtent 10 fois plus cher, justifie la mairesse. Sans compter tous les désagréments liés à la circulation lorsque la ville est obligée d'ouvrir les rues à l'improviste. C'est logique, ça se comprend. Mais il n'en demeure pas moins que les contribuables vont écoper d'une hausse de taxes totale de 3,3 % Valérie. 3 % point. Valérie Plante peut bien faire des nuances sémantiques pour laisser croire que l'augmentation des taxes foncières n'est que de 1,9 %. Personne n'est dupe. Mais de toute façon, cette hausse de 1,9 % dépasse déjà les prévisions d'inflation les plus récentes. Il faut savoir que la ville se fonde sur les prévisions du Conference Board, qui est le seul organisme à faire ce genre d'exercice spécialement pour la région de Montréal. Or, les prévisions du Conference Board sont souvent plus élevées que la réalité à la fin de l'année, ce qui donne du jeu aux politiciens. D'ailleurs, le Conference Board a déjà réduit ses chiffres depuis l'automne dernier. Désormais, il projette un taux d'inflation de 1,7 % à Montréal pour 2018, alors qu'il s'attendait à 2,1 % en octobre dernier. Mais au lieu d'utiliser la prévision toute fraîche dans son budget, la ville a conservé le vieux chiffre plus accommodant. Alors c'est officiel. Même en utilisant la définition restrictive de Valérie Plante, la hausse de 1,9 % des taxes foncières dépasse l'actuelle projection d'inflation de 1,7 %. Sans contredit, sa promesse électorale tombe à l'eau. Remarquez, elle ne sera pas la première à hausser les taxes à un rythme plus rapide que celui de l'inflation. Pas plus tard que l'an dernier, son prédécesseur Denis Coderre se targuait de contenir l'augmentation des taxes résidentielles à 1,7 %. Mais finalement, l'inflation devrait être de 1,1% selon les chiffres que m'a fournis le Conference Board hier. En regardant dans le rétroviseur, on s'aperçoit que depuis 2010, pas une seule administration n'est parvenue à contenir la hausse des taxes sous l'inflation. En moyenne, les résidents ont vu leur taxe totale grimper de 3% par année, exactement le double de l'inflation. À la longue, ça finit par faire mal. Dans certains arrondissements, c'est encore pire. Cette année, par exemple, les résidents de Rosemont-la-Petite-Patrie et de Villeray-Saint-Michel par extension, dis-je bien, se retrouveront avec des hausses de plus de 5%. Ce n'est pas comme cela que la ville va retenir les familles dans l'île. Comme prix de consolation, Valérie Plante va dégager 21 millions de dollars par année, à terme, pour aider les jeunes ménages à faire leur nid à Montréal. Mais il est encore trop tôt pour savoir si elle honorera sa promesse d'éliminer les droits de mutation immobilière, entre parenthèses, taxe de bienvenue, jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour les familles avec enfants qui achètent leur première maison, suivant l'exemple de l'Ontario. Ce ne serait pas du luxe, car la grille de calcul de ces droits n'a pas été revue depuis 1992. Comme elle est établie en pourcentage de la valeur de la maison, la taxe de bienvenue coûte 4 fois plus cher qu'il y a 25 ans, à cause de l'explosion des prix de l'immobilier. Commission des droits, Québec destitue un employé agresseur. Le gouvernement Couillard a destitué un employé de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a admis avoir agressé sexuellement un enfant de 5 ans. La presse a révélé en novembre que la Cour avait accordé une absolution inconditionnelle à cet homme, Mario Gauvin, l'été dernier. Il avait alors reconnu devant le juge avoir incité une mineure à des contacts sexuels il y a 30 ans. L'accusation avait été portée contre lui le 26 octobre 2015. M. Gauvin travaillait pour la commission au moment du procès en juin, mais il n'occupait plus ses fonctions depuis février 2016. Il a été congédié le 30 août, 2 mois après sa reconnaissance de culpabilité. Le Conseil des ministres a ordonné le 20 décembre dans un décret rendu public hier que cet employé soit destitué de ses fonctions. Il s'agit d'une formalité légale qui scelle officiellement le sort de M. Gauvin. L'Agence de la santé publique du Canada affirme que l'éclosion de la bactérie E. coli, qui serait reliée à la laitue romaine, semble terminée, est écrit entre guillemets. Dans un nouvel avis publié hier, l'agence soutient que le risque de contamination est de nouveau faible et qu'elle ne recommande plus de consommer des types de laitue autres que la romaine. Pour appuyer cette nouvelle position, l'agence indique qu'aucun nouveau cas de contamination n'a été rapporté depuis le 12 décembre. Toutefois, malgré l'ouverture d'une enquête le 11 décembre, l'Agence de la, de la santé publique du Canada et ses partenaires n'ont jamais réussi à déterminer la cause de la contamination qui a touché 5 provinces, soit l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador. Un total de 42 cas de personnes rendues malades par la bactérie ont été recensés. Une personne est morte et 17 autres victimes ont dû être hospitalisées après avoir été contaminées.
Dans une banlieue de Montréal où un certain Raymond feuillette tranquillement son journal. L'horoscope optimiste lui prédit un jour de chance et notre vieil enfant est prêt à retrousser ses manches. Depuis son expropriation par la femme de sa vie, faut dire qu'à 35 ans, un oiseau doit quitter le nid. Le pauvre on n'a jamais gardé un seul emploi. Au bout de deux semaines, on le remercie à chaque endroit. Raymond est testeur de matelas et s'est mérité plusieurs fois le titre d'employé du mois. Il ne s'est plus jamais remis les pieds dans les plats. Là où il marche maintenant, il ne peut briser quoi que ce soit. Que faire quand on n'a que des pouces sur les mains? Quoi dire quand chaque mot nous donne la recrée?
La chanson Raymond que nous chantait Andy Saint-Louis.
À la une du Devoir, la mairesse Valérie Plante, et on peut lire au-dessus de la photo budget de Montréal, Plante brise une première promesse. À 3,3%, la hausse moyenne de taxes sera plus élevée que l'inflation. Et sous la photo, la mairesse Valérie Plante nie avoir trompé les électeurs et dit plutôt que son administration soumet un budget responsable. Changement climatique, New York intente une poursuite contre 5 pétrolières. La ville les tient responsables des coûts engendrés par le bouleversement du climat. Walking Cities, guide littéraire dans les villes canadiennes, découvrir Vancouver, Winnipeg, Toronto et Montréal en compagnie d'écrivains. Commerce, le Canada attaque de front les États-Unis devant l'OMC. OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Marijuana, les villes pourront interdire de fumer dans les lieux publics. Et culture, la force des mots. Oprah Winfrey nous a rappelé en fin de semaine l'énorme pouvoir des discours enflammés, écrit notre chroniqueuse Odile Tremblay. Dans un geste qui risque d'alimenter le débat sur la responsabilité des entreprises pétrolières dans la crise climatique mondiale, la ville de New York a annoncé mercredi qu'elle poursuit 5 géants du secteur des énergies fossiles. Elle les accuse d'avoir provoqué les bouleversements qui entraînent déjà des impacts très coûteux pour la mégapole américaine. La poursuite intentée par New York vise directement 5 des principales multinationales du secteur pétrolier, soit BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil et Shell. Dans un langage sans équivoque, les documents déposés en cours les présentent comme des entreprises qui ont fait tout en leur pouvoir pour créer cette menace existentielle. Déjà, New York a lancé en 2016 un programme de plus de 20 milliards de dollars pour se préparer à faire face aux impacts grandissants des bouleversements du climat, dont la montée du niveau des océans, la multiplication des événements climatiques extrêmes et des vagues de chaleur. Et la menace est bien réelle. À titre d'exemple, l'ouragan Sandy, qui a frappé la région en 2012, a coûté plus de 40 milliards de dollars à l'État de New York. Sans surprise, les entreprises visées par la poursuite de New York ont toutes dénoncé la démarche mercredi. Ce type d'action en justice contre une industrie qui propose des produits sur lesquels nous nous appuyons tous pour faire fonctionner l'économie et vivre au quotidien n'en est pas une, a dit un porte-parole d'ExxonMobil en entrevue à l'agence France-Presse. Chevron a dénoncé une action sans fondement factuel ou juridique qui ne fera rien pour répondre à la grave question des changements climatiques, tandis que Shell soulignait que le réchauffement devait être traité par des politiques gouvernementales raisonnables et le changement culturel et non par les tribunaux. Les groupes écologistes ont pour leur part salué l'initiative new-yorkaise. Les attaques acoustiques pourraient être des actes criminels selon Ottawa. Le gouvernement canadien n'est toujours pas en mesure de confirmer ce qui a pu incommoder ses diplomates en poste à Cuba et leurs familles l'an dernier. Bien qu'Ottawa n'écarte pas la possibilité que ces possibles attaques acoustiques soient le résultat d'un acte criminel, le gouvernement ne peut tirer quelques conclusions que ce soit sur les événements qui ont mené 8 ressortissants canadiens à nécessiter des soins médicaux. De l'aveu même d'un haut fonctionnaire du gouvernement fédéral, le Canada se trouve en terrain inconnu, car ni les Canadiens ni les Américains, les deux seules délégations à Cuba touchées par ces symptômes mystérieux, n'ont déjà vécu telle situation dans leur mission à l'étranger. Des diplomates des deux pays ont rapporté avoir entendu des sons aigus ou ressenti des symptômes étranges comme des étourdissements, des pertes d'équilibre, des maux de tête, de l'insomnie ou des saignements de nez. L'ancien ambassadeur Frédéric de Kerkhove est convaincu que ces maux ont été causés par une attaque acoustique, bien que le ministère des Affaires étrangères s'abstienne de le dire faute de preuves. Reste à savoir quelle en était la source. Aucun touriste ayant séjourné à Cuba n'a fait état de symptômes inhabituels selon Ottawa. Le gouvernement n'a donc pas diffusé d'avertissement pour les vacanciers. Certains porteurs du gène défectueux ne développeront pas la maladie d'Alzheimer. Dans le Journal of Alzheimer's Disease, des chercheurs montréalais montrent qu'il est possible de distinguer parmi les personnes porteuses d'un gène qui prédispose à la maladie d'Alzheimer celles qui échapperont à cette pathologie implacable de celles qui la développeront dans les années à venir. Cette méthode de prédiction pourrait ainsi permettre d'intervenir de façon précoce sur celles qui sont les plus à risque, d'en souffrir afin de retarder, voire prévenir son apparition. Cinq hommes ont réalisé mercredi un spectaculaire braquage en volant pour plus de 4 millions d'euros de bijoux dans le célèbre palace parisien du Ritz. Avant que trois d'entre eux ne soient interpellés vers 18h30, le groupe a pénétré dans l'hôtel situé sur la très chic place Vendôme en plein cœur de Paris. Ils se sont emparés des bijoux exposés derrière des vitrines avant de prendre la fuite. Selon une source policière, leur butin était de plus de 4 millions d'euros. Trois des braqueurs présumés ont été interpellés, mais deux malfaiteurs restent en fuite. Le parquet de Paris a ouvert une enquête de flagrance pour vol commis avec armes et en bande organisée, selon une source judiciaire. André Desmarais a repris l'ensemble de ses fonctions à la direction de Power Corporation du Canada et de la corporation financière Power. Le président délégué du conseil d'administration, président et cocher de la direction de Power Corporation, était en congé de maladie depuis le mois d'avril dernier, suivant les conseils de son médecin de l'Institut de cardiologie de Montréal. Malgré son absence, M. Desmarais est resté impliqué dans les enjeux significatifs liés au groupe de sociétés de Power Corporation depuis le début de son congé, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Voitures autonomes, 35 000 emplois de plus au Canada d'ici 2021. Un organisme indépendant prévoit des impacts immédiats sur le marché du travail. L'arrivée des voitures autonomes dans les années à venir aura des effets immédiats sur le marché du travail canadien. Leur développement créera près de 35 000 nouveaux emplois d'ici 2021, mais entraînera également la transformation ou la disparition de plusieurs métiers, révèle un rapport qui sera dévoilé ce jeudi par le Conseil des technologies de l'information et des communications, CTIC. Les véhicules autonomes créeront des emplois, mais entraîneront aussi des changements qui nécessiteront un remaniement des compétences liées à certaines professions d'aujourd'hui, conclut l'étude du CTIC, dont Le Devoir a obtenu copie. Et dernier paragraphe en ce qui a trait à ce sujet. En 2016, l'organisme indépendant spécialisé dans l'analyse des nouvelles technologies a estimé que près de 213 300 ingénieurs et travailleurs des technologies de l'information et de la communication travaillaient d'une façon ou d'une autre au développement des véhicules autonomes et connectés au Canada. Vous écoutez l'émission Revue de presse, le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. À venir, une chanson et aussi la revue de presse du Journal de Montréal.
Dans les airs.
l'avez sans doute reconnu, et sinon, ben, je vais vous le dire, c'était Marjo qui nous chantait « Il y a des matins ».
En une du Journal de Montréal, écrasement aux îles de la Madeleine, cafouillage dans la cabine de pilotage. Jusqu'à 5,6% d'augmentation du compte de taxes à Montréal, rien de drôle, entre parenthèses, pour les contribuables, alors qu'on voit une photo d'une Valérie Plante en train de rire. Ludovic Bourgeois, en tournée, il rendra hommage à son père. Son père, vous le savez, il s'agit de Patrick Bourgeois, qui est mort malheureusement du cancer à la fin de 2017. 200 emplois perdus, chicane de famille tragique. Distraction et manque de pratique. Près de 2 ans après le terrible accident qui a secoué tout le Québec, le Bureau de la sécurité des transports du Canada, BST, et le Bureau du coroner ont finalement rendu publiques hier les conclusions de leur enquête. Lors de la descente, Pascal Gosselin et son passager pilote Fabrice Labourelle, dont la présence n'était pas nécessaire, ont discuté de choses qui n'étaient pas essentielles, a indiqué le coroner Martin Clavet. Ceci a pu contribuer à les distraire et ainsi diminuer leur attention, a ajouté le médecin. Même s'il pouvait légalement piloter l'appareil, Pascal Gosselin avait volé moins de 20 heures à bord du Mitsubishi MU2 dans les 90 jours précédant l'accident. Vu les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé peu avant l'écrasement, M. Gosselin a donc manqué de pratique afin de piloter adéquatement cet appareil de haute performance, a indiqué Cathy Fox, présidente du BST, donc le Bureau de la sécurité des transports du Canada. Le BST a statué que Pascal Gosselin avait réagi à la situation au lieu de la contrôler de manière délibérée et mesurée. La conjointe de Jean Lapierre, Nicole Beaulieu, deux de ses frères, Marc et Louis Lapierre, et l'une de ses sœurs, Martine Lapierre, ont aussi péri dans l'écrasement de l'appareil. Jean Lapierre se rendait alors avec sa famille aux funérailles de son père. Même si tout pointe vers une erreur de pilotage, le BST indique que dans une telle situation, n'importe quel pilote aurait agi de la sorte. Et à la page, je vous lisais une partie de la page 3 et à la page 4, on peut lire toujours à ce sujet, douloureux souvenir pour les proches éprouvés. L'écrasement de l'avion était évitable, évoque le rapport d'enquête du coroner. Nous espérons fortement que les constats du BST et les recommandations du coroner trouveront écho auprès du ministère des Transports du Canada, mentionne Marianne Lapierre dans un message publié sur Facebook, fille du chroniqueur politique Jean Lapierre. Celle qui est aussi journaliste au réseau TVA remercie les enquêteurs des deux organismes tout en avouant que leur travail remue de douloureux souvenirs qui est nécessaire dans notre processus de deuil. Les décès des membres de la famille Lapierre et des deux pilotes étaient évitables, conclut le bureau du coroner. Une chicane de famille qui tourne mal. Acculés au pied du mur, les fondateurs des pâtisseries de Gascogne n'ont eu d'autre choix que d'intenter une poursuite de 2 millions contre leur propre fils, a appris le Journal de Montréal. L'entente hors cours qui l'a suivie aurait précipité la spectaculaire faillite de l'entreprise, jetant 200 employés sur le trottoir. Poursuivi pour 162 000 $ pour un escalier mal déneigé. Le gouvernement fédéral poursuit un couple de Laval pour 162 000 $ parce qu'un facteur serait tombé dans l'escalier mal déneigé de son immeuble. Les gens ne déneigent pas, ils s'en foutent carrément, déplore le facteur impliqué dans cette affaire, Stéphane Di Loro. Mais nous, on est là tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse 30 degrés ou moins 30. Depuis l'accident survenu en janvier 2015, l'employé de Poste Canada a travaillé quelques mois à temps partiel, avant d'être placé en arrêt de travail à cause de sa blessure à l'épaule droite, selon la poursuite. À partir de ce jour-là, tout a dégringolé, explique-t-il. Aujourd'hui, j'ai mal 24 heures sur 24. Tout est un calvaire. Me brosser les dents, me faire à manger, essayer de dormir, n'importe quoi. C'est avec consternation que les propriétaires Grazio Di Cristo et Céline Ladouceur ont appris qu'on les poursuivait. Personne n'a obligé le facteur à venir livrer le courrier chez nous ce jour-là, s'indigne M. Di Cristo. J'ai déjà été aide-facteur et quand il y avait une certaine quantité de neige, nos patrons nous disaient de ne pas monter une seule marche. Selon Maître Patrick Henry, avocat spécialisé en responsabilité civile, les propriétaires de logements sont tenus de prendre les moyens pour éviter les accidents. Mais la perfection, surtout au Québec en hiver, n'existe pas, mentionne-t-il. Les conditions météo sont tellement changeantes qu'on ne peut pas demander aux propriétaires d'avoir des lieux parfaitement déneigés en tout temps. Et parlant de neige, des précipitations et un redout prévu à Montréal. Du temps doux va s'installer à Montréal et dans les environs pour aujourd'hui et demain avec de fortes précipitations à prévoir. Le mercure devrait atteindre 8 degrés Celsius aujourd'hui, puis se maintenir autour de 7 avant de plonger au-dessous de 0 durant la nuit de demain à samedi. Combien fait-il actuellement, Mathieu? Je poursuis ma lecture. Le record pour un 11 janvier à Montréal a été établi à 10 degrés en 1980. Une fine bruine devrait d'abord recouvrir la région aujourd'hui avant de se changer en pluie cette nuit, selon Environnement Canada. La pluie devrait persister demain, avec près de 15 à 20 mm attendus avant de s'en transformer en neige dans la nuit de demain à samedi. Ça va venir faire de la slush dans les rues avec de la neige en place, indique la météorologue d'Environnement Canada, Amélie Bertrand. De la pluie verglaçante était également prévue dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ce qui pourrait compliquer les déplacements ce matin. Les températures pour la fin de semaine s'annoncent beaucoup plus froides avec un minimum de moins 16 samedi et de moins 21 dimanche. Il fait 3 degrés, m'a indiqué Mathieu, à donc 10h42. Lancée lundi soir, la troisième opération de chargement de la neige à Montréal était complétée à 40 % hier après-midi. La ville doit faire le maximum pour enlever la neige des rues et ainsi dégager les puisards d'ici demain. Des bateaux-pompes tentaient toujours ce matin, heure locale, d'éteindre l'incendie qui s'est déclaré à bord d'un pétrolier qui a percuté un navire de fret dimanche en mer de Chine orientale. 31 membres d'équipage du pétrolier iranien Sanchi, qui transportait 136 000 tonnes d'hydrocarbures, sont portés disparus. Selon plusieurs sources concordantes, le navire pourrait brûler pendant plusieurs semaines. Un homme a perdu la vie hier soir à la suite d'un accident de la route impliquant quatre véhicules survenus plus tôt dans la journée à Saint-Sulpice dans la Naudière. On parle d'une camionnette qui a d'abord embouti l'arrière d'une voiture sur l'autoroute, a indiqué la sergente Joyce Camp, porte-parole de la SQ. La voiture happée a ensuite fait des tonneaux. Le conducteur, un homme dans la cinquantaine, a été conduit dans un état critique à l'hôpital. Son décès a été constaté en soirée. La passagère dans la voiture, une femme dans la cinquantaine aussi, a aussi subi de graves blessures. De nouveaux heurts ont éclaté hier soir entre manifestants et policiers dans plusieurs villes de Tunisie au troisième jour d'une contestation alimentée par des mesures d'austérité. Depuis lundi, des troubles sociaux ont été enregistrés dans le pays. Le premier ministre Youssef Chahed a condamné les actes de vandalisme qui, selon lui, servent les intérêts des réseaux de corruption pour affaiblir l'État. Il a pointé du doigt le Front populaire, un parti de gauche opposé au budget. Dans la nuit de mardi à hier, 49 policiers ont été blessés, 237 personnes arrêtées et des fourrières ont été attaquées lors des troubles, a indiqué le ministère de l'Intérieur.
Petit matin, sans horizon. Petit café, fumé d'usine. Je regarde le derrière des maisons. Les femmes sont à leur cuisine. Y a des oiseaux qui se font la cour sur les fils du bel téléphone. Et dans l'œil crevé de ma cour, un 747 qui résonne. Il pousse un gros transformateur au cœur de ce qui fut un chêne. Sur la vitre, je trace un cœur que la buée retient à peine. Le transistor hurle à la mort, des airs à faire pendre un merle. Les enfants s'amusent dehors. Dans la slush, un collier de perles. Au hasard, j'ouvre le journal. Crime passionnel, rue Lacordaire. Paraît que ça va de plus en plus mal pour les mangeurs de pommes de terre. Paraît aussi que le président s'amuse à jouer à la roulette. En deux annonces à la page 100, avec ce qui reste de la planète. Moi je m'en viens à mon piano, je trouve cet air de ma grand-mère. Et pour les mots je mets le phono de mon petit matin solitaire. Dommage que ce soit si gris. J'aurais voulu dire autre chose. Faudrait recommencer la vie avant de rechanter les roses. Avant de rechanter les roses.
Chanté par Sylvain Lelièvre et c'était son petit matin.
Les journaux régionaux sous la plume de Denis Graton dans le droit uni pour Sabrina, entre parenthèses, partie 2. La triste histoire de Sabrina Mongeon l'a touchée droit au cœur. Et comme j'écrivais dans ma chronique de lundi dernier, Unie pour Sabrina, Le directeur général d'Ottawa 2017, Guy Laflamme, veut aider la famille de cette jeune Gatinoise de 18 ans tout en donnant au suivant. On a une photo, la Gatinoise Sabrina Monjon, qui est soignée à l'unité des grands brûlés du centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, à la suite d'un grave accident survenu dans la nuit du 25 décembre. Monsieur Laflamme a d'abord offert un don de 10 000 $ aux proches de Sabrina, mais sa générosité ne s'arrête pas là. Reculons à juillet dernier, à un événement qui a marqué l'imaginaire des gens et qui s'est tenu dans le cadre des célébrations du 150e de la Confédération. Je vous parle évidemment de la machine, de ces deux mastodontes qui ont déambulé dans les rues du centre-ville d'Ottawa pendant 3 jours et qui ont tiré dans leur sillage plus de 750 000 spectateurs. L'araignée Kumo et le dragon Longma ont été le hit de l'année dans la capitale nationale. Un théâtre urbain ambulant, inoubliable. Vous y étiez? Vous avez aimé? Eh bien, voici votre chance de revoir ces machines, mais dans leur pays natal cette fois-ci, à Nantes, en France. En guise de remerciement pour votre appui aux célébrations d'Ottawa 2017 et pour venir en aide à Sabrina Monjon, qui, la Flamme, offre personnellement 2 prix qui seront remis à la suite d'un tirage parmi les participants qui auront offert un don. Pour chaque tranche de 25 $ en don, vous obtenez un droit de participation ou un nom dans le chapeau, comme on dit. Exemple, un don de 100 $ vous donne 4 chances de gagner l'un des 2 prix. Le premier prix, un voyage à Nantes, incluant l'avion et l'hébergement pour 2 personnes. En compagnie de Guy Laflamme, vous rencontrerez l'équipe de la machine. En plus de faire une sortie à bord de l'une des machines, vous obtiendrez de plus 2 billets pour assister aux activités des Folles Journées de Nantes. Valeur approximative de ce prix, 5 000 $. Il y a cependant des conditions. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus, avoir un passeport valide et être disponible aux dates prévues pour ce voyage, soit du 30 janvier au 5 février 2018, dans un peu moins de 3 semaines. À souligner que les frais de déplacement à Nantes et les repas ne sont pas inclus. Le deuxième prix offert par Guy Laflamme, son manteau de marque Roots d'Ottawa 2017, édition limitée d'une valeur de 650 $. Toutes les sommes recueillies dans le cadre de ce concours seront remises à la famille de Sabrina Monjon. Pour participer, rendez-vous sur gofundme.com, mot-clé Sabrina Monjon, Sabrina S-A-B-R-Y-N-A, Monjon M-O-N-G-E-O-N. Attention, il y a plus d'une campagne sur ce site sous ces mots-clés. Assurez-vous de choisir celle de Guy Laflamme. Le tirage se tiendra le vendredi 19 janvier à 16h. Bonne chance et merci. Des nouvelles de Sabrina. La Gatinoise, faut-il le rappeler, est soignée à l'unité des grands brûlés du centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, à la suite d'un grave accident survenu dans la nuit du 25 décembre. La jeune femme de 18 ans a été électrocutée, mais elle a miraculeusement survécu après avoir passé 4 heures seule dans le froid avant d'être secourue. Elle a été amputée de ses 2 jambes et de ses 2 bras. Sabrina est réveillée et consciente, a dit sa sœur Samantha Monjon, lorsque jointe à Montréal mardi. Sabrina est cependant intubée et ne peut pas nous parler. Mais elle communique avec nous par des hochements de tête et des clins d'œil. Les médecins craignaient que ses reins aient été affectés dans cet accident. Mais bonne nouvelle, ça regarde bien de ce côté. Les médecins se disent optimistes. Je n'ai pas encore parlé à Sabrina de la campagne de sociofinancement, de la générosité incroyable des gens et de l'attention médiatique qu'elle reçoit, ajoute Samantha. Il faut qu'elle se repose et je ne veux pas la bouleverser. Je vais peut-être essayer de lui en parler en fin de semaine, mais si je sens qu'elle n'est pas prête, je vais attendre un peu. À midi, mardi, la somme amassée dans le cadre de la campagne de sociofinancement de Samantha Monjon s'élevait à plus de 134 000 $. Dans la tribune, 4 enfants de la DPJ dans un même foyer, Marie-Christine Bouchard. Le processus d'adoption d'un enfant protégé par la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, est-il difficile? Oui. En vaut-il la chandelle? Oui, 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 oui. Mille fois oui, répondra sans la moindre hésitation Rachel Messier, une Estrienne qui est passée quatre fois par ce long processus pour devenir la mère de quatre enfants adoptés qui ont maintenant entre 11 et 5 ans. Quand on fait le choix d'adopter un enfant, il faut le voir comme le défi d'une vie, dit Rachel Messier d'entrée de jeu. Les quatre enfants de Rachel Messier vivent toujours avec les séquelles des conditions dans lesquelles ils se sont développés et des premiers mois qu'ils ont vécu auprès d'une famille dysfonctionnelle. L'un d'entre eux lutte contre le syndrome de l'alcoolisation fœtale. L'un est hyperactif. L'autre a dû vivre un sevrage des drogues consommées par sa mère biologique durant sa grossesse, mais n'a heureusement pas gardé de séquelles, alors que l'un d'eux vit avec une dyspraxie verbale. Quand les enfants adoptés arrivent dans une famille, il faut créer un cocon autour d'eux. Ce ne sont pas des enfants qui peuvent être pris par n'importe qui comme un autre bébé. Au début, ils doivent s'attacher à leur mère et à leur père avant de pouvoir s'ouvrir aux autres. Ça a été particulièrement vrai pour l'un de mes enfants qui est arrivé dans notre famille à l'âge de 6 mois et demi et qui s'était déjà promené beaucoup dans les premiers mois de sa vie, raconte la maman, qui ne changerait sa vie pour rien au monde et qui rêve même un peu secrètement de faire de la place pour un cinquième petit trésor dans sa vie. Pourtant, il y a eu des moments difficiles dans cette famille. Il y a eu des grandes périodes de notre vie où pendant 3 ou 4 heures la nuit, ni mon conjoint ni moi ne pouvions dormir parce qu'il fallait s'occuper des enfants. On commence juste à pouvoir dormir, se souvient une Rachel Messier complètement sereine. Les quatre enfants de Rachel connaissent leur histoire de vie et savent qu'ils ont été adoptés. Ils peuvent parler librement à leur mère et à leur père de ce qu'ils ressentent par rapport à cette situation. Je leur explique que leur maman les aimait. Le fait qu'elle n'ait pas eu des capacités parentales n'enlève rien à l'amour des mères biologiques, assure tout doucement Mme Messier, qui forme une très solide équipe avec son conjoint des 23 dernières années, André Chauveau. La vie avec un enfant adopté est différente de celle que l'on peut vivre avec un enfant naturel. L'enfant adopté doit vivre avec des blessures profondes à l'intérieur de lui, nuance Rachel Messier. Le processus pour adopter un enfant est difficile, parsemé d'embûches, de doutes, de remises en question, de crainte de voir son enfant s'envoler pour retourner auprès de ses parents biologiques. Dès la formation initiale, on parle des vraies affaires aux gens qui se présentent comme famille postulante à l'adoption, explique Manon Marcotte, chef de service à l'adoption au CIU3S de l'Estrichus. Difficile, oui, mais combien enrichissant. Et merveilleux. Je ne changerai pas ma vie pour rien au monde, assure Rachel Messier dans un éclat de rire sincère. Et pour terminer, dans le quotidien, la population est invitée à oublier le froid les 9 et 10 février, alors que le Festifret revient pour une deuxième année consécutive. Pendant 2 jours, plusieurs activités et spectacles seront offerts gratuitement dans le cadre de l'événement extérieur gratuit. La musique sera notamment à l'honneur grâce à la présentation de 3 spectacles par soir à l'Agora du village portuaire de la Baie. Le site sera animé de 18h à 23h. Karim Ouellet à la Claire Ensemble, Beat Market, KNLO et un DJ set de Danny Lepage, Mr. Trax et Michel Leblanc figurent à l'horaire. Et on poursuit après la chanson avec l'actualité culturelle. Restez avec nous et un grand merci d'écouter Canal M de Vues et Voix.
Karim Ouellet et sa chanson Marie-Jo.
Actualité culturelle, à peine deux mois après la mort de son père, Ludovic Bourgeois s'apprête à lui rendre hommage avec sa toute première tournée. « Je sais que ça va être difficile, mais je prends ça un jour à la fois », confie le jeune chanteur. « Ça a toujours été clair que je ferais un hommage à mon père dans mon spectacle bien avant les événements des derniers mois », ajoute Ludovic Bourgeois en entretien au journal. Son père, le chanteur Patrick Bourgeois, est mort le 26 novembre dernier. D'un cancer, il avait 55 ans. La tournée de Ludovic Bourgeois s'amorcera samedi au Palace de Granby et s'arrêtera au Théâtre Saint-Denis de Montréal le 15 février et à la Salle Albert-Rousseau de Québec le 15 mars. Le chanteur préfère taire les détails de cet hommage pour l'instant, mais il y a fort à parier qu'il interprétera, entre autres, « Tu ne sauras jamais », la pièce qui lui avait permis d'attirer l'attention du public et des coachs lors de son audition à la dernière saison de La Voix l'an dernier. Ludovic Bourgeois a également offert un medley de chansons des bébés le mois dernier dans le cadre du spectacle de La Voix Junior au Centre Bell et au Centre Vidéotron. Je trouve ça important de continuer à faire vivre ces chansons, confie-t-il. Quelque 63 % des Canadiens urbains estiment qu'il est important de vivre dans un quartier qui possède une scène artistique vivante avec de la musique en direct. C'est ce que révèle un sondage fort succinct mené par la SOCAN auprès de 1080 Canadiens vivant dans les centres urbains. 91 % des sondés soutiendraient le fait qu'une partie des fonds que les promoteurs immobiliers versent dans certaines municipalités au développement communautaire aille au développement des arts et de la culture. La SOCAN se sert du dévoilement de ses résultats pour prôner l'idée d'une participation des villes dans le maintien des scènes locales et estime que les investissements des promoteurs immobiliers devraient ruisseler également sur les salles de spectacle. Et justement, parlant de salles de spectacle, plusieurs artistes, dont le batteur de Pink Floyd, Nick Mason, se sont rassemblés mercredi devant le Parlement britannique pour appeler à la sauvegarde des scènes de musique au Royaume-Uni, tandis que Paul McCartney leur apportait son soutien. Environ 35 % des scènes musicales ont fermé au cours de la dernière décennie en raison de l'embourgeoisement, du prix des loyers et des changements qui bouleversent l'industrie musicale. À Londres, ce sont plus de la moitié des 430 lieux de concert qui ont fermé leurs portes depuis 2007. Les meilleurs groupes ont appris leur métier en jouant dans de petites salles. Tu y apprends tout. La technique, le jeu de scène, à interagir avec le public, a déclaré Nick Mason, qui apporte son soutien à un projet de loi destiné à endiguer cette épidémie de fermeture. Le projet présenté par le député travailliste John Spiller accorderait notamment une plus grande protection aux scènes de musique menacées par des projets immobiliers. Le prix Rivage 2017 a été décerné à Bondré d'André A. Michaud, publié aux éditions Québec-Amérique. Ce prix, qui salue un roman policier, est décerné par un jury formé de 97 libraires de France, de Belgique et de Suisse. D'abord publié au Québec en 2014, Bondré a été publié en France à l'automne 2016. Le roman a déjà remporté, entre autres, le prix du gouverneur général du Canada, ainsi que le prix des lecteurs Quai du Polar, /20 minutes, décerné lors du 13e festival Quai du Polar à Lyon. En panne d'idées pour une sortie culturelle, nos journalistes vous présentent leur choix. C'est dans les pages art dans la presse d'aujourd'hui. Pierre Lapointe, la tournée La science du cœur de Pierre Lapointe passe par Laval ce soir. Un spectacle dense et d'une grande beauté où le chanteur qui a brillamment enveloppé ses chansons de piano et de marimba décortique à merveille le sentiment amoureux. À voir, suggestion de José Lapointe. À la salle André Mathieu, ce soir, 20h. Je poursuis avec les suggestions. La Société des arts technologiques présente du 9 janvier au 2 février, alors c'est commencé, son SatFest 2018 avec 8 nouveaux courts-métrages immersifs projetés sur 360 degrés, dont le voyage cosmique de Brownian Motion, l'exploration de la mutabilité du corps féminin, cycle et l'imagerie rétro-futuriste des lendemains d'hier. Où? C'est donc à la Société des arts technologiques. Quand? Ben, je vous l'ai dit tantôt, c'est commencé et ça se poursuit jusqu'au 2 février. Comme de coutume, le Centre PHI, PHI présentera du 12 au 20 janvier sa sélection des meilleurs courts-métrages ainsi que longs-métrages du cinéma canadien de la dernière année d'après une sélection du Festival international du film de Toronto, le TIFF. Le tout commence ce soir dès 18h avec la projection du long-métrage « La petite fille qui aimait trop les allumettes » de Simon Lavoie. Le cinéaste sera présent pour parler de son œuvre librement adaptée du roman de Gaétan Soucy. Par ailleurs, le film de zombies « Les affamés » de Robin Aubert sera projeté demain à 21h. Et dernière suggestion de Mario Cloutier, cette fois le déclin de l'Empire américain, pièce inspirée du scénario de Denis Arcand, reprend la route au cours des prochaines semaines avec un premier arrêt à l'Assomption. Patrice Dubois la met en scène et y joue entouré d'une excellente distribution composée entre autres de Simon Lacroix, Marilyn Castonguay, Bruno Marcil et Marie-Hélène Thibault. La troupe se rendra également dans 18 villes, dont Val-d'Or, Rimouski, Chicoutimi, Sherbrooke, Laval, Drummondville et Joliette. Alors, ça commence le 16 janvier au Théâtre Hector Charland de l'Assomption. Allégation d'inconduite sexuelle, Charles Dutoit quitte le Royal Philharmonic de Londres plus tôt que prévu. Charles Dutoit se retire plus tôt que prévu de ses fonctions de directeur artistique et chef d'orchestre principal du Royal Philharmonic Orchestra de Londres. La décision a été prise à la suite d'une rencontre d'urgence avec le conseil d'administration et d'un dialogue plus approfondi avec Charles Dutoit, indique un communiqué transmis hier matin qui précise qu'il s'agit d'une décision commune. Le maestro a été visé le mois dernier par une série d'allégations d'inconduite sexuelle. Charles Dutoit a dit qu'il rejetait en bloc les allégations qui n'ont pas été prouvées en cours. Les fans de France Gall ont défilé mercredi dans le recueillement près de Paris pour un dernier hommage à la chanteuse française, femme toute simple. Ils sont arrivés seuls, en famille ou en petits groupes d'amis dans le funérarium de Nanterre, dans la banlieue ouest de Paris, parfois une fleur à la main qu'ils doivent déposer devant le bâtiment avant d'entrer dans le plus grand calme. Après quelques secondes d'attente, les admirateurs sont invités à se recueillir devant le cercueil de bois verni, disposé au milieu de roses blanches et roses pâles dans une petite pièce. Sur le mur du fond, derrière le cercueil, un parterre d'hortensia. Ces obsèques civiles se dérouleront vendredi dans la plus stricte intimité, à la demande de la famille. Elle reposera ensuite dans le caveau familial au cimetière de Montmartre, à Paris, auprès de son époux et de leur fille. On écoute France Gall.
Sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances, c'est toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est inventer. Si maman, si. Si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître. Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si. Si maman, si, mais mon avenir reste gris.
Alors, c'est la portion sujet libre en manchette, c'est-à-dire que c'est dans la presse en manchette, oui, c'est dans la section dernière heure, aluminerie de Bécancour, 1030 syndiqués des métallos mis en lock-out. La direction de l'aluminerie de Bécancour, ABI, a mis ses 1030 travailleurs en lock-out la nuit dernière. Le lock-out a été décrété par la direction après que la section locale 9700 du syndicat des métallos affiliée à la FTQ eut rejeté les offres patronales finales. Le syndicat avait annoncé mercredi que ces offres avaient été rejetées à 80,3% par ses membres. Le syndicat détenait déjà un mandat de grève obtenu avec un appui de 97%, mais n'avait pas l'intention de l'exercer. Au cours d'une entrevue mercredi, le président de la section locale 9700, Clément Masse, avait dit espérer qu'avec ce rejet ferme des offres patronales, l'employeur reviendrait à la table de négociation. Mais la direction a plutôt décidé de décréter un lock-out à 3 heures la nuit dernière, a confirmé le service des communications de l'entreprise par voie de communiqué. La direction d'ABI a fait savoir que l'usine continuera d'être exploitée, comme le permet la loi, mais par des cadres. Une seule ligne de production sur 3 sera en activité, a précisé la direction. Celle-ci n'a pas voulu accorder d'entrevue. De son côté, le syndicat des métallos s'est dit déçu du déclenchement d'un lock-out par la direction. Il affirme qu'il avait tendu la main à l'entreprise après que ses membres eurent rejeté les offres finales à 80 %. Les instances du syndicat étaient encore réunies jeudi matin pour faire le point. ABI est détenue à 75 % par Alcoa et à 25 % par Rio Tinto. On en entend parler depuis hier. C'est dans le Journal de Montréal, entre autres, d'aujourd'hui. Suisse finit les homards dans l'eau bouillante. Le gouvernement suisse a interdit hier la pratique culinaire consistant à plonger les homards vivants dans de l'eau bouillante, précisant qu'ils devront être assommés avant d'être mis à mort. Dans le cadre d'une révision des lois relatives à la protection des animaux, le gouvernement fédéral souligne qu'à compter du 1er mars, la pratique consistant à plonger les homards vivants dans l'eau bouillante commune dans les restaurants ne sera plus autorisée. Les homards devront désormais être étourdis avant d'être mis à mort selon l'ordonnance émise par le gouvernement fédéral. Selon la télévision publique RTS, seuls les chocs électriques ou la destruction mécanique du cerveau seront autorisés. Les défenseurs des droits des animaux et des scientifiques estiment que les homards et autres crustacés possèdent des systèmes nerveux complexes et qu'ils ressentent vraisemblablement de la douleur lorsqu'ils sont ébouillantés. En outre, selon l'ordonnance, les crustacés ne pourront plus être transportés sur de la glace ou de l'eau glacée et devront être maintenus dans leur environnement naturel. Aliments de dépanneur, troquer les jujubes contre des fruits, c'est dans la presse d'aujourd'hui, section pause repas. Trouver des aliments santé lorsqu'on s'arrête au dépanneur, ce n'est pas une mince affaire. Même si ces commerces offrent peu à peu des produits plus sains, les consommateurs devront changer leurs habitudes. Pas si évident dans un milieu qu'on associe presque toujours aux croustilles et aux friandises. C'est un article d'Émilie Bilodeau. Lorsqu'on pense aux aliments vendus dans les dépanneurs, les chips et les tablettes de chocolat viennent spontanément en tête. Certains endroits comme les 600 couche-tard de la province proposent également de la pizza, des sous-marins, des hamburgers et des hot-dogs. Ces options de repas aux qualités nutritives discutables fonctionnent bien, même très bien, selon Karine Grandmont, gestionnaire marketing chez couche-tard. On ne sait pas si c'est le fait qu'on est un dépanneur, mais le virage santé est plus lent dans notre milieu. Notre offre de produits est élaborée selon la demande de nos clients et pour le moment, on ne sent pas vraiment qu'il y a un intérêt pour ce genre d'aliments, précise-t-elle. Les couche-tard ne vendent pas seulement de la malbouffe. Pour qui veut bien manger, il y a des œufs cuits durs, des noix, des smoothies et du fromage. Plus récemment, les magasins ont ajouté des houmous, des yogourts, granola et des crudités à leur offre alimentaire. Le pain blanc de quelques sandwichs a aussi été changé pour du pain multigrain. Madame Grandmont admet que l'offre d'aliments sains est encore mince et qu'il y aurait moyen de faire mieux si les consommateurs en manifestaient le désir. Dans la région de Québec, une dizaine d'organismes ont mobilisé 4 dépanneurs dans un projet pilote visant à promouvoir des aliments santé. Les nutritionnistes du projet Aliments sains, ici, ont réalisé que les commerces offraient déjà des options saines, mais qu'elles étaient peu mises en valeur. En offrant de la visibilité à ces aliments, ils ont constaté que beaucoup de clients continuaient à les bouder. Même si on avait identifié les choix santé, les gens qui venaient au dépanneur pour payer leur essence et acheter un sac de chips voyaient rarement nos affiches promotionnelles. Changer des comportements de consommateurs, ça prend du temps, dit Pascal Chaumette, nutritionniste à la Direction de santé publique. Dans le cadre du projet, Mme Chaumette et ses collègues ont réalisé que les clients qui disaient vouloir bien manger avaient de la difficulté à passer de la parole aux actes. Nous avons sondé les élèves d'une école secondaire pour savoir quels aliments ils voulaient retrouver au dépanneur du coin. Ils avaient plein de bonnes idées comme des sushis, des fruits, des légumes, des sandwichs. Quand on a changé l'offre alimentaire, les jeunes ont quand même continué à acheter du chocolat, des croustilles et des bonbons. Notons que les résidents du voisinage ont aimé cette nouvelle offre alimentaire et le dépanneur a décidé de conserver les collations et repas santé. Jacques Nantel, expert du commerce au détail à HEC Montréal, rappelle que plusieurs petits dépanneurs indépendants peinent à être rentables. En troquant les jujubes contre des fruits, les risques pour ces propriétaires de magasins sont grands. Les loyers des dépanneurs de grandes chaînes sont très élevés, ajoute-t-il. Pour compenser, les commerces misent sur des aliments qui offrent une grande marge de profit, comme les arachides et les boissons gazeuses. Un dépanneur se trouve souvent dans un endroit qui coûte cher, comme une bretelle d'autoroute ou une artère commerciale. Les administrateurs veulent rentabiliser leurs pieds carrés, explique M. Nantel. Mais en rentrant des aliments périssables comme des fruits et des légumes, la marge nette se voit considérablement réduite, dit M. Nantel, expert du commerce au détail. Ici, IGA Express fait figure d'ovni dans ce paysage de Camelot alimentaire. Les plateaux de thon, pita et concombre, les duos de fraises et ananas ou encore les assiettes de fruits séchés, de noix et de raisins ne sont pas cachés dans un recoin de l'une des 20 succursales affiliées à Shell, propriété d'IGA Sobeys depuis 2011. Au contraire, la chaîne mise sur les produits frais et santé. Luc Blais, vice-président national, dépanneur et poste d'essence chez Sobeys, est d'avis que l'industrie n'a d'autre choix que d'entamer ce virage santé, une tendance déjà remarquée aux États-Unis. Pour y arriver, il explique que les IGA Express peuvent compter sur le réseau de distribution des épiceries IGA et aussi sur un logiciel qui permet de mieux analyser les aliments les plus populaires, un outil inestimable lorsqu'on travaille avec des denrées périssables. Un des défis, c'est d'optimiser nos heures en magasin pour que le modèle tienne la route économiquement. Dans un dépanneur traditionnel, on retrouve souvent un caissier qui place aussi la marchandise. Si vous rentrez chez IGA Express, vous allez trouver au moins 6 personnes pour la caisse, pour placer la marchandise et pour cuisiner les aliments. Ça coûte plus cher à exploiter, dit M. Blais, mais ça vaut amplement la peine pour la clientèle grandissante. Et Télé-Québec présente ce soir « 100 ans à table », un documentaire sur l'évolution de la gastronomie au Québec, de Marcel Kretz, la Sapinière, à Martin Picard, au Pied de Cochon, en passant par Colomb-Saint-Pierre chez Saint-Pierre et Normand Laprise, Toqué. 9 chefs présenteront un plat signature qui a marqué notre histoire gastronomique. La discussion sera animée par la critique culinaire à The Gazette, Leslie Chesterman. 100 ans à table est réalisé par Guillaume Sylvestre et sera diffusé ce soir à 20h à Télé-Québec. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui remercie aussi Jean-François. Pourquoi Jean-François? Oui, peut-être, mais je l'ai remercié en début de semaine, mais je peux le saluer encore, François Brodeur, qui m'a gentiment remplacé la semaine dernière. Merci Mathieu, vous me sauvez. Mais je voulais aussi vous remercier, vous, Mathieu. Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Soyez extrêmement prudents parce que ça glisse un petit peu partout sur les trottoirs et dans les rues. Et je vous retrouve quant à moi au Paractualité dans quelques minutes. À bientôt!